Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Main vous face, dans nos sociétés liquides où les liens, les relations humaines deviennent flexibles plutôt que durables dans tous les domaines de la vie, réussir sa vie de couple est devenu un credo contemporain. La vie à deux est devenue un support identitaire essentiel, l'un des lieux de l'épanouissement personnel. Dans ce contexte, la rupture est devenue l'une des craintes fondamentales du couple. Il faut qu'on parle. Une phrase glaçante, souvent redoutée dans un couple, il faut qu'on parle, cinq mots qui en règle générale ne présagent plutôt rien de bon pour la survie du couple. Mais comment rendre féconde cette phrase, ou se pose cette autre question, on arrête ou on continue? Pendant plus de 60 ans, tous les 6 mois, lors d'un repas en tête-à-tête, c'est la question que se posait l'écrivaine Dominique de Santy et son mari, le philosophe Jean Toussaint de Santy. Une question rituelle qui a vivifié leur couple et l'a rendue solide, durable. Cet après-midi, je vous propose de ne plus avoir peur de cette phrase. Hein. Il faut qu'on parle et on arrête ou on continue, prélude à un fructueux bilan de couple, vous le verrez cet après-midi. Mes complices, Éric Libiot et Marie-Laure Sunshine, bienvenue dans Grand Main vous face, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Ali Rébéi, Grand Bien vous face.
Je crois que nous représentions l'un pour l'autre l'extrême de l'exotisme. Et je ne sais pas ce qui s'est fait, mais il est certain que nous nous sommes forgés l'un par l'autre. Et c'est pour ça qu'on n'a jamais pu se quitter. On a essayé, mais ce n'est pas possible.
Oui, alors vous voyez, tous les 6 mois... Vous demandiez si vous alliez encore vivre ensemble les 6 mois suivants.
Oui,
vous aviez un rite.
D'accord, on a maintenu le rite jusqu'au bout, mais à la fin, c'était quand même, ça tenait de la plaisanterie.
Une émission sous les auspices de l'écrivaine Dominique de Santy, qui évoquait donc son couple avec le philosophe Jean Toussaint de Santy en 2002 sur France Culture. Bonjour Caroline Cruz.
Bonjour Ali.
Vous êtes conseillère conjugale et familiale, thérapeute de couple, et vous publiez aux éditions du Rocher « Il faut qu'on parle », 60 sujets à aborder en couple avant qu'il ne soit trop tard. Bonjour Sophie Cadalen.
Bonjour Ali.
Vous êtes psychanalyste et vous avez notamment publié chez Erol « Inventer son couple ». Bonjour Robert Neuburger, bienvenue.
Oui, bonjour.
Vous êtes psychiatre, psychanalyste, thérapeute de couple et de famille et vous êtes l'auteur chez Payot d'On arrête, on continue et il s'agit de la 4e édition. Tiens, pourquoi cette phrase « Il faut qu'on parle », pourquoi cette phrase fait-elle si peur au couple, Caroline Cruz?
Parce que en général, elle est prononcée justement quand il est un peu trop tard. C'est-à-dire que on rentre un soir et on trouve sa femme ou son mari assis sur le canapé dans le noir et faisant un peu la tête et disant « il faut qu'on parle ». Ce qui est important dans le titre du livre dont vous venez de parler, c'est la suite. C'est-à-dire avant qu'il ne soit trop tard, 60 sujets à aborder en couple avant qu'il ne soit trop tard. C'est-à-dire qu'il faut peut-être pas parler comme ça de manière impérative et quand les choses se sont suffisamment délitées, mais se parler avant, c'est-à-dire prendre soin de son couple, de l'un, de l'autre et du couple avant qu'il ne soit trop tard, au moment où on commence à sentir que les choses se compliquent un peu.
Sophie Cadalen.
Oui, je crois que très souvent la phrase « il faut qu'on parle » arrive quand on n'a pas à parler, mais on a à dire quelque chose, à déclarer quelque chose. C'est-à-dire, c'est plus le temps de la discussion, effectivement, du débat, de l'expression d'un quelque chose que l'autre, effectivement, auquel l'autre pourrait répondre, réagir. Non, c'est une annonce que l'on va faire. Donc, c'est pour ça qu'elle est terrifiante, cette phrase.
Oui, bien sûr.
Et c'est bien avant, c'est tout au long de la vie du couple, d'ailleurs, qu'il faut se dire des choses, qu'il faut se parler de ce que l'on ressent, et non pas ce « il faut qu'on parle » déclaratif, qui, en fait, n'est plus un vrai dialogue.
Oui, qui est presque une déclaration de rupture, finalement.
Exactement.
Robert Neuburger, il faut qu'on parle, c'est parler vraiment de ce qui ne va pas, et c'est peut-être prendre le risque de la rupture.
Je pense que c'est effectivement une phrase qui n'est pas d'un très bon augure. Hein. Vous savez, je dis souvent, un couple, ça ne s'use pas, mais ça se néglige. C'est-à-dire que effectivement, je suis d'accord avec mes deux collègues, parce que au moment où cette phrase apparaît, c'est effectivement que probablement depuis un temps qui peut être quelquefois long, le couple a été négligé. C'est-à-dire qu'on s'en est pas occupé.
Le couple peut-il compter sur ses simples ressources pour surmonter une crise, un problème, Caroline Cruz? Et quel est le rôle exact de votre métier de thérapeute de couple et de conseillère conjugale?
Oui, alors je peux rebondir aussi sur pour continuer sur il faut qu'on parle, il faut qu'on parle de ce qui ne va pas, mais il faut aussi qu'on parle de ce qu'il va, de ce qui va. Hein, c'est-à-dire quand je reçois des gens, bon évidemment ils viennent avec des plaintes, des demandes, des griefs, des conflits, mais je assez souvent et même assez régulièrement, je leur demande ce qui va dans leur couple, c'est-à-dire ce sur quoi ils peuvent s'appuyer aussi pour trouver des ressources, comme vous dites, pour non pas recommencer comme avant, mais peut-être reconfigurer leur couple autrement. C'est-à-dire qu'il y a toujours des bonnes et des mauvaises raisons pour lesquelles on se met en couple. Les mauvaises raisons sont souvent inconscientes, hein. Ça vient des histoires familiales qui viennent empiéter sur le couple, enfin sur la relation de couple. Mais il y a aussi des bonnes raisons. Ces raisons-là sont des ressources.
Quel est votre rôle exact de thérapeute de couple, Sophie Cadalen?
Alors déjà, pour répondre à votre question, oui, je pense que le couple a tout à fait toutes les ressources. Mmh. D'ailleurs, on n'apporte pas des recette miracle, des secrets qu'ils ne connaîtraient pas. On vient à l'appui. Je nous considère comme des outils dont ils peuvent user, utiliser, manier. Mais ils peuvent très bien faire sans, et tant mieux si les couples peuvent faire sans. Notre rôle, alors, moi je suis psychanalyste, donc ce ne sera pas le couple que je reçois, mais je crois qu'au sein d'un couple, ce sont deux personnes de toute façon. Enfin, je ne sais pas que je crois, que j'en suis à peu près certaine. Et que si chacune s'interroge, si chacune se remet en question, avant que d'accuser l'autre de ne pas le rendre heureux, de ne pas lui apporter de quoi, effectivement, égayer leur vie conjugale, si effectivement le couple devient un lieu d'abord d'introspection personnelle avant d'être un lieu de reproche à l'autre, oui, et ben là pour le coup on pourra parler à l'autre avant cette phrase du « il faut qu'on parle » qui n'annonce rien de bon.
Robert Neuburger, vous êtes l'un des papes de la thérapie de couple, quel est votre rôle exact?
Écoutez, vous savez, un couple qui va bien, c'est pas un couple qui a pas de problème, c'est un couple qui sait résoudre les problèmes, c'est-à-dire qu'il a les ressources de dépasser un certain nombre d'obstacles. Et effectivement, les couples qu'on voit, c'est souvent qu'ils sont en panne. S'ils sont en panne, c'est-à-dire quelque chose s'est passé qui a fait éruption dans leur couple et qui les rend incapables de résoudre leurs problèmes. Et c'est souvent d'ailleurs une tromperie hein, dans un nombre considérable de cas.
Quelles sont les questions que se posent le plus souvent les couples qui viennent vous voir, Caroline Cruz?
Ce que Monsieur Neuburger vient de dire, bon, l'infidélité, c'est un des motifs de consultation, mais de manière plus générale, enfin, ils viennent avec une demande un peu large. Hein, on n'arrive plus à communiquer, on n'arrive plus à se parler justement, on n'arrive plus à communiquer. Alors derrière cette demande de meilleure communication, il y a toutes sortes de choses qui peuvent poser problème dans le couple. Je voudrais juste ajouter une chose par rapport à ce qu'a dit Sophie Cadalen, c'est que quand on reçoit le couple, on reçoit la manière dont, enfin, on analyse la manière dont les deux histoires se sont imbriquées dans la relation de couple. Hein. Comment, y compris les histoires familiales de chacun, viennent parfois polluer par un système de projection croisée la relation du couple.
Pourquoi on vient vous voir le plus souvent, Robert Neuburger?
Au départ, écoutez, la phrase, elle est standard. Hein. C'est souvent, on a des problèmes de couple, ce qui est vraiment la seule des problèmes de communication dans le couple. Alors, c'est vraiment la chose qu'ils n'ont pas, parce que c'est des spécialistes en communication, ils communiquent sur la communication de la communication, et ça tourne en rond. Mais la souffrance qui est peu émergée, et qui émerge souvent rapidement dans les consultations, c'est autre chose, c'est une phrase extraordinaire, c'est une phrase « je ne me sens plus exister, je ne me sens plus exister dans ce couple ». Ça veut dire « je ne me sens plus exister en tant qu'homme, en tant que femme ». C'est-à-dire que mon identité sexuée, je la ressens plus. Je ressens plus de la part de l'autre un regard qui me constitue en tant qu'homme ou en tant que femme.
Sophie Cadalen.
Oui, et je crois qu'il y a quand même cette peur en toile de fond. Je crois que quelle que soit la demande, quelles que soient les raisons, c'est la peur de l'échec, la peur de se séparer. La peur de se séparer étant assimilée à la peur de l'échec, ce qui n'est pas toujours le cas. Mais bon, ça c'est une autre question, dont on a déjà, je crois, déjà parlé ici, d'ailleurs, Ali. Pour ça, je trouve que c'est quelque chose dont on ne parle pas assez. On raconte un peu notre époque comme une espèce d'époque très légère, de séparation à tout va. Voilà, ça marche plus très bien. Le moindre anicroche, on va aller voir ailleurs. L'herbe est plus verte. On nous propose des tas de sites, voilà, des possibilités de rencontres. C'est pas vrai. La réalité du couple, voilà, est beaucoup plus tendue, beaucoup plus angoissée. On veut rester ensemble. Et quand on vient effectivement faire une démarche, seul ou en couple, en général, c'est parce que la séparation se profile. En tout cas, on commence à y penser, on commence à se dire, on va pas y arriver et on veut que ça marche.
Marie-Laure Zonshine, de son actuelle.
Oui, il y a deux points sur lesquels j'aurais souhaité revenir avec vous. C'est finalement, d'abord, le couple, c'est 1 plus 1 plus 1. Enfin, oui. Le couple en lui-même, c'est quoi. Oui. Et la distinction entre la relation dans le couple et l'appartenance à un couple. Parce que là, on est plus sur une valeur sociale. On existe parce qu'on est en couple. Mmh. On existe vis-à-vis de l'extérieur. Et c'est aussi parfois cette relation-là qu'on craint de perdre, oui. ou qui risque de se fracasser. Et on a plus peur, finalement, de ce regard extérieur-là que de la scission qui se fait entre l'autre et soi.
Ah oui, complètement. C'est d'ailleurs tout ça qu'on va démêler. Alors déjà, le 3, vous avez raison. Je le dis, et je ne suis pas la seule à le dire, le couple, c'est une affaire à trois. C'est 1 plus 1 plus cette troisième entité qu'on a construit ensemble, qui est à réajuster sans cesse, qui n'est pas quelque chose de fixe. D'ailleurs, si ça devient trop rigide, trop fixe, un lieu comme ça convenu, on est casé, c'est le lieu de notre couple, et là, ça rejoint la dimension sociale, comme vous dites, je dirais, ça sent pas très très bon, parce que la vie demande de s'assouplir, de réajuster, de se repositionner, de reposer quelque part les modalités de ce couple. Maintenant, oui, c'est ça aussi qu'on va démêler. Qu'est-ce qui nous attache l'un à l'autre ? Est-ce que c'est ce qu'on représente ensemble vis-à-vis des autres ? Ce que les autres vont en penser ? Cette notion d'échec dont je parlais à l'instant, il y a un côté, je dirais, presque orgueilleux et tout à fait déplacé qui est, mais j'aurais l'air de quoi si moi, j'ai pas réussi mon couple ? Mmh. Donc oui, tout ça est à démêler. Et c'est vrai qu'aussi la dimension sociale intervient comme des raisons aussi qui font qu'on est attaché l'un à l'autre. On est bien aussi avec les autres ensemble, quelquefois.
Oui, je suis complètement d'accord avec vous. C'est pour ça que la séparation aussi peut apparaître si difficile vis-à-vis des autres, vis-à-vis de tout ce qu'on a construit en tant que couple dans le regard des autres. Mais cette constitution du couple dans le regard des autres, c'est assez intéressant parce qu'on la rencontre en tant que thérapeute de couple. Les gens qui viennent avec leurs difficultés, avec leurs problèmes, avec ce que disait Robert Neuburger sur la souffrance qu'ils peuvent ressentir, ils viennent en couple. Et d'une certaine manière, notre regard les raffermis et les reconstitue dans leur identité de couple. Surtout les jeunes couples d'ailleurs, qui viennent très souvent pour se représenter en tant que couple aux yeux d'un professionnel, et c'est assez intéressant et c'est assez narcissisant pour eux, oui, en tant que couple.
Robert Neuburger.
Oui, c'est juste que il y a un besoin de reconnaissance sociale ou extérieure des couples. Mais le fond de l'affaire, c'est qu'il faut bien comprendre comment est constitué le couple aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a deux dimensions, il y a deux amours dans le couple. Il y a l'amour relationnel, le fait qu'on peut une relation, je dirais, affective érotique entre les deux, qui est très structurante, qui nous conforte dans notre identité sexuée, ce que je disais tout à l'heure, et c'est très important pour chacun de nous. Et puis, le fait d'être passé de la relation au couple, le couple, lui, c'est une petite institution. Moi, j'appelle ça la maison au couple, c'est-à-dire c'est le fait qu'ensemble, on a constitué une petite cellule où il y a, on attend de la solidarité, de la confiance, de l'entraide. Alors, le problème aujourd'hui, c'est que très souvent, cette dimension là prend le pas sur la dimension affective érotique. C'est-à-dire qu'il y a les enfants, on fait une famille, il y a le travail, et puis du coup, très souvent, enfin dans la plupart des cas, ce qui s'est passé, c'est une espèce de familialisation du couple. C'est-à-dire que la dimension affective érotique a perdu énormément de sa place, et il y en a un qui se réveille un jour en se disant « Mais qu'est-ce que je fais là ? J'ai l'impression d'être avec ma sœur ou avec mon frère. » Vous voyez, et à ce moment-là, c'est ce moment-là où la phrase arrive, il faut qu'on parle. Hein. C'est dans ces contextes-là.
Sophie Cadalen.
Oui, je suis pas tout à fait d'accord, parce que cette dimension alors affective, oui, sans doute la plupart du temps, érotique, pas toujours. C'est absolument pas un ingrédient systématique du couple. Et je crois pas que la brouille, en tout cas le désaccord, se situe sur cette scission-là. Je trouve même d'ailleurs toujours très étonnant quand des couples se plaignent que justement la dimension érotique n'est pas, et quand on leur pose la question, en fait, elle n'a jamais été. C'est pas forcément ce qui organise un couple, c'est pas forcément ce qui fait, je dirais, le sel d'une rencontre, et en tout cas le désir de l'engagement. Donc cette espèce de clivage systématique, là, pour le coup, non, je suis pas tout à fait d'accord avec ça.
Alexia Rivière, Julia Macarez et Clément Martin m'ont aidé à préparer cette émission. C'est Claire Destacan qui réalise. Belle journée à l'écoute de France Inter. To be in alive, reminiscing about the apricots and blunts on pack and ride. Won't call her friends, 'cause she's ashamed of being locked into bed. Liar at best.
wants to scream.
Et on vient d'écouter Arlo Parks qui interprétait Hope.
C'est le plus beau jour de ma vie.
Grand bien vous fasse.
Mes parents vont être fous de joie.
Les parents? Pourquoi?
À lire EBI.
Quand on va leur annoncer qu'on se marie.
Ouais, mais... Attends, faut qu'on en parle.
Non, mais faut... Attends.
Sur France Inter.
Et cet après-midi, on se demande quand continuer ou arrêter quand son couple bat de l'aile.
Viviane et Michel, vous formez un couple depuis 15 ans. Un couple, c'est évidemment deux vies qui se croisent. Il y a des moments où le chemin se bouche, on bute sur un obstacle, on pense à se séparer. Notre but dans cette émission, c'est d'analyser ces obstacles et de comprendre de quoi ils sont faits, à travers l'expérience d'un couple, votre couple.
S'il fallait en quelques mots définir sur quoi bute votre histoire de couple, comment définiriez-vous? Quel mot diriez-vous?
C'est que on a tout pour être heureux, on a deux enfants, on a un travail qui nous plaît, on travaille ensemble tous les jours... Et on a plaisir à travailler ensemble. Et on a quand même... Il y a un obstacle.
Un obstacle assez important, parce qu'il nous empoisonne quand même l'existence depuis 10 ans. Et depuis 10 ans, on n'a pas trouvé de solution. Et il faut absolument qu'on en trouve une. Maintenant, on en est arrivé à un point où ça devient trop sérieux, trop grave. Et il faut que la solution soit trouvée, parce qu'on veut continuer à vivre ensemble.
Extrait de l'émission Psycho en 1983 sur Antenne 2, une émission créée par Pascal Breugnot qui a un peu révolutionné la télévision des années 80. Robert Neuburger, il est bon de se poser régulièrement la question, on arrête, on continue, il est essentiel de faire régulièrement son bilan de couple.
J'avais fait ce petit bouquin qui s'appelle On arrête, on continue, faire son bilan de couple. Dans ce but, c'est un bouquin qui contient des questions plus que des réponses, parce que je pense que à chaque phase de vie, nos attentes quant au couple se modifient. Cela dit, je voudrais quand même revenir un tout petit peu sur la... je crois qu'il y a un petit malentendu avec Madame Cruz. Moi, je parlais pas de sexualité, je parlais du fait que les attentions portées à l'autre, le regard porté à l'autre, le respect qui est porté à l'autre, nous constituent dans notre identité sexuée. C'est pas que la sexualité, certainement pas. Elle peut même être à la limite absente, c'est tout cet ensemble de comportements. Et la souffrance, des, encore une fois, dans les couples, elle est très souvent liée à ça. C'est-à-dire, on a l'impression que c'est une relation qui est devenue très familière, très familiale, mais au fond, on n'existe plus dans le regard de l'autre, vraiment dans notre identité d'homme ou dans notre identité de femme.
Alors vous répondiez, Robert Neuburger.
C'est un point très important, qui apparaît d'ailleurs dans l'idée du bilan de couple, c'est tout à fait quelque chose qui doit être exploré, c'est-à-dire les frustrations qui peuvent exister à ce niveau-là.
Robert Neuburger, vous répondiez donc plutôt à Sophie Cadalen qu'à Caroline Cruz. Et pour vous, il était essentiel donc de faire régulièrement son bilan de couple, parce que pour vous, la fragilité des couples est paradoxalement liée à l'idée que l'amour est éternel. Expliquez-nous ce paradoxe apparent.
Ah oui, écoutez, quand les couples qui se constituent, c'est pour la vie, à mon avis, ils sont mal partis, parce que je vais vous raconter juste une petite anecdote. C'était un couple comme ça qui était assez dysfonctionnel, où madame se plaignait énormément que monsieur s'intéressait pas beaucoup à elle, à aucun niveau. Et ses reproches finalement ont déclenché chez lui une réponse extrêmement surprenante qui était « Mais comment tu peux dire que je ne t'aime pas alors que je t'ai épousé ?» Il l'avait épousé 20 ans plus tôt. Vous voyez un peu ce que ça donne. C'est-à-dire, c'est comme si le contrat de départ pouvait permettait qu'après, on n'a plus tellement à s'en occuper. Tandis que dans des couples qui sont plus fragiles, effectivement, il y a la question qu'il faut entretenir le couple, qu'il faut s'en occuper, qu'il faut lui donner du temps, qu'il faut donner de l'attention à l'autre, qu'il faut que les deux puissent avoir une vie de couple qui soit suffisamment satisfaisante pour les rassurer, pour les constituer.
Caroline Cruz, je rappelle que vous publiez Il faut qu'on parle. Le bilan de couple, ce n'est pas seulement un moment pour exprimer ses reproches, ses frustrations, c'est également l'occasion de tester ses capacités d'adaptation et de créativité face aux difficultés.
Oui, enfin, c'est un peu ce qu'entendait Robert Neuburger. Moi, je suis d'accord avec le fait que l'idéalisation du couple est quelque chose d'extrêmement piégeant. Hein, c'est-à-dire que vouloir... vous disiez dans votre introduction que le couple avait était une valeur refuge. Oui, donc on veut que son couple soit parfait. On veut que rester sur la même longueur d'onde toute la vie, bon, ce qui n'est évidemment pas possible. Donc, effectivement, une forme de créativité dans le couple s'avère indispensable. Mais faire son bilan de couple, je trouve ça très bien. Peut-être pas non plus systématiquement toutes les semaines.
Sophie Cadalen.
Oui, non plus. À moins d'être le couple de Santis et d'en faire une espèce de rendez-vous qui devient plaisant.
Oui, d'un rituel, bien sûr.
Presque drôle sur les derniers temps. Par contre, non, je crois pas non plus qu'il faille se poser comme ça, comme une réunion là, très officielle.
Oui, un peu business, enfin.
Voilà, un peu business. On continue ou pas. Mais par contre, je crois qu'il faut pouvoir envisager la possibilité de la rupture. C'est-à-dire beaucoup de couples se vivent sur le mode, on est ensemble et on doit continuer toujours et à tout prix ensemble, et que l'idée même d'envisager que peut-être un jour ils pourraient plus être ensemble panique totalement. Or, je crois que c'est cette peur-là, justement, qu'il s'agit de traverser, de franchir. Non pas en disant on se sépare ou pas, mais oui, c'est impossible. Et comme un gouffre, c'est une image que je donne souvent, au bord duquel il faut savoir quelquefois avancer, non pas pour sauter dedans, mais pour justement se rechoisir.
Oui,
se dire,
absolument.
Et non, je préfère encore ma vie avec toi, même si aujourd'hui elle est peut-être un peu problématique, peut-être un peu souffreteuse.
Non, je pense que c'est très important d'envisager, de ne pas considérer que on sera effectivement ensemble toute la vie, que la fidélité sera toujours au rendez-vous, savoir que l'autre est faillible, qu'on est faillible, et de cette manière-là, comme vous dites, l'expression me semble vraiment importante et je la dis souvent, pouvoir se rechoisir, c'est-à-dire que ce soit un acte posé et pas simplement effectivement une autoroute qui continue sans qu'on ait à se poser de questions.
Bonjour Rolande, bienvenue.
Oui, bonjour.
Bienvenue. D'où appelez-vous Rolande?
Moi, j'appelle de... Enfin, je suis à côté de Pau aujourd'hui, mais j'habite en Dordogne. Voilà.
Très bien. Quel est votre rituel dans votre couple ?
Nous, en fait, comme j'expliquais, nous sommes un couple recomposé, puisque mon conjoint et moi-même sommes veufs, tous les deux. Mmh. Donc, nous avons un vécu chacun, bon, un peu... voilà, on a une vie antérieure, on va dire. Et on s'est rencontrés il y a 14 ans, on est chanteurs tous les deux dans une chorale. Et depuis 14 ans, ben écoutez, ça suit son cours. Et nous, il faut qu'on parle, c'est un peu la phrase humoristique. Bon, on a un peu d'humour tous les deux. Et je dis à Michel, début d'année, ben, tiens Michel, alors faut qu'on parle. Est-ce qu'on continue cette année, quoi, vous voyez, tous les ans, je dis un peu ça en rigolant. Et puis finalement, ben ça marche. Après, je dis on parle beaucoup au quotidien. Et puis cette année, on a fait une super expérience qui fait qu'on voit si notre couple marche ou pas. On est partis pendant 7 mois en vélo, on a traversé toute l'Europe, très juste. Tous les deux.
Caroline Cruz.
Voilà, on vient juste de prendre notre retraite. J'avais dit à mon conjoint, ben moi j'aimerais bien faire Danube en vélo. C'est ce qu'on a fait. Ben pendant 7 mois, écoutez, ça a marché. Bon, je dis pas qu'au quotidien, de temps en temps, ça râlait un petit peu parce que bon, oui, tu t'es trompé de chemin, oui, t'as toujours raison. Mais on parle beaucoup entre nous et puis je pense qu'on a un vécu qui fait que maintenant notre couple actuel, si vous voulez, ben il y a des choses importantes, il y a des choses qui sont moins importantes. Et en particulier le côté matériel, voilà.
J'ai une image en tête, là. Pardon ? Roland, j'ai une image en tête, là, c'est 7 mois à vélo avec Éric Ribio. Et à Caroline Cruz.
Non, juste rebondir là-dessus, je pense que c'est vraiment un signe important du fait qu'au-delà des petites querelles du quotidien, dues à la vie de tous les jours, à la vie de famille, aux enfants, au boulot, se retrouver seul en vacances, en couple, et que ça se passe bien, et qu'on ait des choses à se dire, des choses à partager, c'est quand même un signe que le couple va bien. Hein, que bon, il est quand il est débarrassé des contraintes du quotidien, pouvoir être ensemble sans personne d'autre autour et que ça se passe bien, je pense que c'est un bon signe de viabilité du couple.
Sophie Cabalène.
Oui, puis c'est une belle image, je trouve, cette espèce d'escapade en vélo, une longue escapade, là, 7 mois. C'est un peu ça aussi, la vie de couple. Oui, on est d'abord chacun sur son vélo, c'est pas un tandem. On va pas rouler à la même vitesse toujours, on n'aura pas envie de prendre les mêmes chemins. Il y en a un, quelquefois, qui est devant et l'autre qui traîne la patte derrière. Puis quelquefois, même, on se perd de vue, voilà. Et c'est la capacité à, justement, à se retrouver, à se donner rendez-vous quelque part, à repartir ensemble. Et à tant cheminer de manière très allègre, côte à côte. Ouais, c'est peut-être ça, l'aventure du couple.
Merci beaucoup, Roland, d'avoir témoigné, Marie-Laure Zonschein.
Oui, sur cette notion, finalement, d'intimité partagée, de mise en commun, d'espace à nous. Là, je voulais interroger M. Neuberger sur un symbole du vivre ensemble qu'il cite dans son ouvrage, en parlant de Jean-Paul Kaufmann, qui dit que c'est acheter un lave-linge, qui est le symbole absolu de l'intimité partagée. Donc, je trouvais ça assez interpellant.
Robert Neuberger.
Il faut laisser ça
mais vous le citez.
Notre ami sociologue. Actuellement, c'est plus tout à fait ça. Ce qui constitue les couples, c'est plutôt la signature en bas du bail de location lors de la première cohabitation. C'est un peu ça qui signe le début du couple. Mais effectivement, les rituels sont extrêmement importants dans les couples parce que c'est une signature. C'est quelque chose qui dit du nous. La difficulté d'un couple, son problème, c'est de risquer de se dédifférencier, au fond de se banaliser. Et les rituels sont des choses qui appartiennent, qui font couple, qui créent ce sentiment d'appartenance à cette petite institution. Moi, j'avais fait ce petit bouquin, alors en arrêtant, on continue de faire son bio de couple, surtout pour faciliter l'échange. Parce que vous savez, c'est pas facile dans un couple de placer une revendication, dire écoute, il faut qu'on discute de ça. Moi, je trouve que ça va pas très bien parce que voilà, il y a ci ou il y a ça. Et effectivement, le risque à ce moment-là, c'est que l'autre dit oui, mais tu dis ça, mais toi, t'as pas vu comment toi tu es, etc. Et ça risque de partir en. Il y a des cas très fréquents où ça part dans des espèces de scènes répétitives. Donc, l'histoire du bouquin, c'était aussi que chacun puisse cocher les points qui l'intéressent, mettre des petits commentaires dans le bouquin, le passer à l'autre, qui peut lui réagir, si vous voulez, pour éviter justement ces scènes répétitives qui souvent d'ailleurs sont un symptôme qui font venir les couples en consultation. C'est-à-dire le fait qu'ils répètent de façon très rapprochés des échanges de reproches et où chacun accuse l'autre. Vous savez, une demande de couple, c'est ça qui est difficile, c'est que très souvent, chacun... ces deux personnes normales, mais qui pensent que l'autre ne l'est pas. Hein. Je le définirais comme ça, hein, lors des demandes.
Caroline Cruz, quels sont les secrets des couples qui s'entendent? Quelles sont les bases fondamentales de la compréhension dans le couple?
Vaste question. Il me semble que...
Peut-être identifier ses besoins et les exprimer à l'autre de manière claire, à la première personne, sans généralisation, sans attendre qu'il devine, je cite votre livre, sans les formuler sous forme de reproches.
Oui, la base, oui, ce sont les principes effectivement de la communication non violente. Hein, mieux vaut s'exprimer, dire ce qu'on ressent soi au lieu d'accuser l'autre. Mieux vaut essayer de comprendre plutôt que de faire des reproches, et surtout pas des reproches rétrospectifs au moment où l'autre de toute façon ne peut plus rien faire. Bon, c'est-à-dire prendre soin de l'autre, prendre soin de ce qu'il ressent et ne pas être ni dans l'agression ni dans le reproche. C'est pas toujours facile. Hein, c'est-à-dire que, bien sûr que la communication non violente est une forme d'idéal du couple, mais bon, on n'y arrive pas toujours, et il est important aussi de pouvoir revenir sur ce qu'on a dit, revenir sur quelque chose qui a pu être blessant le lendemain, et avoir ce recul qui permet de dire ça a dépassé ma pensée, et je le regrette d'une certaine manière.
Sophie Cadalen.
Oui, je crois, alors je ne parlerai pas de secret des couples qui durent, ça, sinon qui on aurait tous vendu très cher.
Qui s'entendent.
Pas mal. Qui s'entendent, je crois que c'est une forme d'autonomie de chacun. C'est-à-dire qu'on n'attend pas du couple qu'il soit la prise en charge de notre propre vie, ce qui est trop souvent le cas. Comme si, ayant fait le couple ensemble, ça devenait le lieu qui devrait effectivement nous apporter le bonheur, le réconfort, les solutions, des divertissements même. Cette phrase qu'on connaît tous, oui, tu ne me sors jamais, mais c'est pas à l'autre de nous sortir. Voilà, on est adulte dans le couple. Alors si on a envie de sortir, on prend la décision, on invite l'autre à sortir, si l'autre n'y a pas pensé, c'est qu'il n'en a pas le même impératif. Et souvent, le couple souffre de ça. Et vous disiez, effectivement, Caroline Cruz, vous parlez de, effectivement, comme on invite et comme on embarque et comme on fait peser sur le couple nos histoires, nos frustrations, nos blessures, nos familles, nos névroses, ô combien, tellement.
C'est lourd,
chef,
tout ça.
Peut-être. Oh là, c'est très lourd. Et si, justement, on n'a pas fait un peu le tri de soi à soi, de ce qui est de l'ordre de notre propre histoire, de notre imaginaire, de nos attentes sans possible réponse, on va encombrer l'autre et le couple d'une demande que l'autre ne pourra jamais satisfaire.
Oui, je pense que c'est important en thérapie de couple de le montrer, ça, c'est-à-dire que l'autre entende ou comprenne que éventuellement l'origine du conflit ou l'origine de l'agacement ou l'origine de la dispute vient d'ailleurs. Hein, c'est-à-dire que c'est pas lui qui est totalement, qui est pas du tout d'ailleurs responsable de ce conflit, de cet agacement, mais que son conjoint a projeté sur lui quelque chose qui vient d'ailleurs. Ça permet à l'un d'essayer de se dégager de ses projections, et à l'autre de se dire bah oui, ce n'est pas une attaque personnelle. Si il ou elle me dit ça, c'est parce que ça, il y a quelque chose dans son histoire qu'il est en train de rejouer dans la relation de couple.
J'en suis à mon septembre, elle en est à son mai, et je l'aime. Mon charbon m'interdit sa luminosité, et je l'aime. Elle est belle à pâlir, et moi, vous me voyez, et je l'aime. Ses yeux sont un matin, la nuit m'a dévoyé, et je l'aime, et je l'aime. Sonde à l'envers reconstitue la flamme, et je l'aime. Et mon cœur vieux tocard, le voilà qui rame d'âme, et je l'aime. Et j'entends une voix me crier, c'est ta femme, ta femme. L'humain je le crachais, elle est la fleur humaine, et je l'aime. Je savais me haïr, elle exténue la haine, et je l'aime. Je pelotais la mort, son ventre tend la vie, et je l'aime. Je m'armais de mes larmes, désarmée, elle rit, et je l'aime, et je l'aime. Et je cours dans les rues, bondissant. chambre des drapes. Et je l'aime. Une bise inconnue me peuple d'oriflamme. Et je l'aime. Et j'entends cette voix affamée. C'est ta femme, ta femme. Rendez-vous à 8 heures. Elle arrive à 8 heures. Toc, toc, toc. En moi, l'ancien Satan attend qu'elle me leurre. Pas du tout. Je lui dis comme on dit, je lui dis mes problèmes. Et je l'aime. Je me peins tout beau sur roué sur la vie blême. Je te aime, je te aime, je te aime. Je te aime depuis que je t'ai vu passer. Je te aime. Toi le bel avenir, feu tout de mon passé. Je te aime. Mais je suis tout petit, oh maman, oh madame, je vous aime. Mon âme tonne en moi que vous êtes ma femme. Que vous êtes ma femme. Elle m'aime.
Nougaro, interprétez ma femme.
J'ai toujours su que tu étais trop bien pour moi. Je ne suis pas à la hauteur de tes sentiments.
Grand bien vous fasse.
J'aurais aimé te dire tout cela en face, mais j'ai un déjeuner. Et te respecte trop pour te quitter par texto. Je t'imagine en train de lire cette lettre.
À lire EBI.
Tu seras le plus beau souvenir de ma vie. Tu l'es déjà.
Sur France Inter.
Et cet après-midi, on se demande quand continuer ou arrêter quand son couple bat de l'aile.
Bess ?
Oui ?
Finalement, je pense que je vais plutôt y aller seule.
Mais non, je suis prête. Allons-y.
Vois-tu, notre couple, c'est un compas.
Oh non, c'est
bon. On est solidement attachés par une charnière au sommet, mais nos branches doivent pouvoir évoluer en toute indépendance.
Je parie que c'est elle. Elle s'impatiente, tu l'as fait attendre.
On en a discuté de l'écriture et du processus créatif, et on a dit qu'il fallait une dose de liberté pour
parfait.
S'épanouir.
Parfait, prends-la, ta liberté. J'en peux plus de cette vie. Je me sens petite et médiocre.
Calme-toi, il faut...
Allez, va la rejoindre, ta pote, elle. On verra si elle accepte
arrête,
de faire ta compta.
Arrête, s'il te plaît.
Tu l'aimes.
Cette conversation
elle
est stérile. Pour l'amour
elle
du
est
ciel.
Jeune.
Oui.
Extrait du film Tamara Drew de Stephen Frears. L'infidélité, c'est l'un des principaux motifs de consultation, Caroline Cruz. La plupart de vos consultations sont motivées par la tromperie.
Non, heureusement pas.
Pas mal, quand même.
Oui, il y en a. Enfin, c'est un des motifs de consultation. Mais c'est enfin, quand les gens viennent parler en couple d'une infidélité, c'est que ils ont, enfin, d'une part, c'est que l'infidèle n'est pas parti avec la personne pour laquelle il a été infidèle, et c'est qu'ils ont envie d'essayer de comprendre comment ça a pu arriver dans leur couple, ce qui a fait que cette infidélité a pu se produire, et voir si ce désir d'aller voir ailleurs, cette ne peut pas, enfin ce désir, oui, de vie et de renarcissisation qui fait qu'on va voir quelqu'un d'autre, ne peut pas se réintroduire, si j'ose dire, dans le couple.
Sophie Cadalène.
Oui, l'infidélité, voilà, un grand événement dans le couple, mais souvent dans son présent, dans son immédiateté, justement trop cuisant, trop douloureux, comme une plaie trop grande ouverte pour que réellement on puisse interroger le couple dans ses fondements, dans ses choix, dans la volonté de continuer ou pas ensemble. D'abord, voilà, il faut qu'on se répare, il faut qu'on quelque chose de la souffrance intolérable, de la narcissisation, comme vous disiez très justement. C'est ensuite, effectivement, comme vous dites, quand on commence à s'approprier cette histoire, quand on commence aussi à s'impliquer, non pas en étant dans un rôle d'accusé et de coupable. Enfin, d'accusateur et de coupable. Voilà, qu'est-ce qu'on en fait de ça? Et ça peut être effectivement un levier pour se poser la question de notre couple, ses fondements, pourquoi on était voir ailleurs, qu'est-ce que ça venait provoquer, est-ce que c'était pas un appel à l'autre, et oui. Qu'est-ce qu'on fait avec ça aujourd'hui?
Oui, c'est même si c'est difficile, au bout d'un moment, c'est important de voir que celui qui a été infidèle souffre aussi de cette infidélité, c'est-à-dire qu'il souffre de la blessure qu'il a pu faire à l'autre, et que, comme vous le disiez justement, il n'y a pas forcément une victime et un bourreau, et que comprendre ça et se réapproprier ce qui a conduit à cette infidélité permet d'être acteur aussi de son histoire et de pas rester dans un rôle de victime passive à jamais, victime de la méchanceté, de l'infidélité de l'autre. Et c'est vraiment important parce que ça permet justement de se... très souvent, après une infidélité, une fois qu'on a fait un petit travail, les couples disent on s'est jamais autant parlé, on refait l'amour, ça va beaucoup mieux. Alors, c'est pas toujours le cas, hein, parce qu'il faut, comme vous le disiez, un peu de temps, il faut surmonter un certain nombre de choses, mais ça peut être une occasion, là encore, comme on le disait, de se rechoisir et de revivre son couple et sa sexualité autrement.
Robert Neuburger, l'infidélité, la tromperie permet de faire un bilan en profondeur de l'état du couple.
Dans les bons cas, oui. Mais cela dit, souvent, l'infidélité, la gravité pour le couple, elle tient pas à la gymnastique sexuelle que ça suppose, mais c'est plutôt parce que c'est une attaque à une valeur extrêmement importante dans les couples, c'est-à-dire la confiance. Et là, ça devient très difficile. Comme me disait une patiente, j'aime mon mari, mais je ne peux pas rester dans un couple où il n'y a pas de confiance. Vous voyez, c'est là où ça peut être extrêmement dangereux. Alors que souvent, ce n'est qu'un symptôme, effectivement. C'est le fait qu'on veut signaler qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans un couple et il faut peut-être revoir les donnes. Mais le problème, c'est quand ça attaque la confiance. Alors, si pour répondre à qu'est-ce qui fait que les couples qui durent, sur quoi ils reposent, effectivement, ça repose là-dessus, c'est-à-dire ça repose sur la confiance, sur l'amour, sur le respect et surtout, alors quelque chose qui manque très souvent dans les couples que je peux rencontrer, c'est le temps, c'est-à-dire donner du temps au couple. Très souvent, on voit les couples qu'on voit sont souvent des gens qui ont chacun des professions prenantes, ils ont deux enfants, ils ont de la famille, ils ont des préoccupations par rapport à leurs propres parents, et finalement, quand je pose la question, mais quand est-ce que vous êtes sortis les deux ensemble la dernière fois? Ils se regardent, ils disent oui, avec les enfants. Je dis non, pas avec les enfants, vous deux. Oui, avec les amis. Non, je dis vous deux. Ils ne se souviennent pas. Et quand est-ce que vous êtes partis la dernière fois en couple, en week-end? Ouh, voilà. Et ce qui fait que quelquefois je peux leur dire, écoutez, au fond, vous n'avez pas de problème de couple, vous n'avez pas de couple du tout. Parce qu'un couple ne peut pas exister sans qu'on lui donne une consistance. Il ne peut pas exister de façon virtuelle. Il faut donner du temps au couple, que chacun puisse consacrer du temps, que ce soit pour des sorties, que ce soit pour des activités communes, vous voyez. Et ça, ce sont des éléments extrêmement importants et qui peuvent éviter peut-être cette histoire d'infidélité.
Caroline Cruz.
Oui, juste rebondir sur la question de la confiance. C'est effectivement très important et très souvent on entend, oui, je ne peux plus faire confiance, je ne peux plus avoir confiance, il m'a trompé ou elle m'a trompé. Mais cette question de la confiance, on peut la penser en amont. Très souvent, la personne qui est infidèle a eu l'impression que l'autre, finalement, n'avait plus confiance en lui. Comme vous disiez tout à l'heure, Monsieur Neuburger, qu'il était transparent, qu'il n'existait plus, qu'il avait plus de valeur aux yeux. Donc, cette question de la confiance, elle est plus compliquée que simplement confiance trahie. Et puis, moi, je pense à un jeune couple que j'ai vu récemment où le conjoint pensait que, il était marié, c'était comme ça, tout allait bien, la fidélité était un acquis, et finalement, sa compagne a été infidèle pour exister aux yeux de son mari. Il n'avait plus, d'une certaine manière, confiance en elle, et du coup, elle a trahi sa confiance. Mais finalement, ils ont appris à avec du mal, avec du temps, mais ils ont appris à reconstruire la confiance autrement.
Sophie Cadalène.
Oui, je voulais revenir sur cette histoire de vie, de temps qu'on ne donne pas au couple. Mais il me semble que quand même, là aussi, les couples qui fonctionnent plutôt très bien sont aussi des couples qui, chacun, je parlais d'autonomie, c'est pas qu'on fait tout chacun de son côté, mais que chacun dans sa propre vie, et ben finalement, on est pas mal. On est plutôt épanoui. On est plutôt, voire, heureux. Et cette jouissance que l'on a, pour reprendre un terme très psychanalytique, un peu énorme, mais néanmoins très parlant, cette jouissance que l'on a dans sa propre vie, on l'amène dans le couple. Et deux personnes qui peut-être travaillent beaucoup, qui peut-être ont des métiers passionnants, qui vraiment sont en réalisation, comme on dit, s'épanouissent dans ce qu'ils font, je crois qu'ils ramènent ça aussi dans le couple, et peut-être qu'ils ont moins de temps que beaucoup ensemble, mais le temps qu'ils ont, ils en profitent aussi vraiment.
Caroline Cruz, rappelez-nous quels sont les 4 C qui peuvent peut-être sauver un couple. C'est comme compréhension, c'est comme confiance, on l'a dit, c'est comme coopération, c'est comme créativité.
Créativité, oui, c'est ce qu'on a dit un peu tout à l'heure, c'est-à-dire, essayer d'être, rester en éveil. Alors, pas sous un mode, il faut absolument être tout le temps en train de se dire, de réfléchir à ce qu'on va dire, à ce qu'on va pas dire, mais accueillir l'imprévu ou le susciter de temps en temps, pas forcément aller passer un week-end à Venise, mais proposer à l'autre, passer la nuit dans un hôtel de charme dans la ville d'à côté. Enfin, remettre un peu d'humour, un peu de joie, un peu d'imprévu dans le couple.
Moi, je rajouterais un cinquième C, compréhension, confiance, coopération, créativité, curiosité, Sophie Cadalen. C'est l'un des ingrédients fondamentaux du
c'est,
couple.
C'est très juste, curiosité de l'autre. C'est ça que l'on peut oublier. Mais presque malgré nous, inconsciemment, on éteint cette curiosité parce que c'est aussi redécouvrir sans cesse que l'autre est autre, et encore autre. Soi-même aussi d'ailleurs. Mais de soi, on s'aménage un peu mieux, voire on se met un peu plus facilement de côté. Mais de découvrir au fil du temps que l'autre encore peut nous surprendre, pas toujours dans le bon sens du terme d'ailleurs, il peut avoir des réactions, des envies, des attitudes. On le voyait pas comme ça. Et c'est peut-être ça justement qui va établir la confiance. C'est plutôt cette fidélité au désir que l'on a de l'autre, malgré justement toutes les torsions à l'image que l'on a de l'autre, qui fait qu'on peut continuer dans le temps, mais, comme vous dites très justement, en ayant encore envie de rencontrer cet autre.
Caroline Cruz, ce que vous rappelez dans votre livre « Il faut qu'on parle », hein, illustré par des dessins de Benoît Bastard, c'est que cette phrase, elle doit être féconde, justement. Il faut qu'elle soit, il faut plus qu'on en ait peur de cette phrase. Il faut qu'elle soit le prélude à quelque chose de neuf.
Oui, enfin, de toute façon, vous voyez, se parler, c'est pas non plus forcément s'installer et parler dans la relation tous les soirs, mais c'est aussi, enfin, vous voyez, ce qu'on disait tout à l'heure à propos de ce qui me semble être, je distingue la bonne routine et la mauvaise routine. La mauvaise routine, c'est quand on s'ennuie, et la bonne routine, elle est faite de tout ce qu'on peut s'apporter, ce que vous disiez tout à l'heure, être curieux de l'autre, lui raconter ce qu'on fait, enfin, parler de l'extérieur. Introduire dans le couple ce qui vient, ce qu'on a pu vivre, ce qu'on
et puis l'humour, je pense à l'humour. L'humour ça permet de parler plus facilement de certains sujets parfois graves. Sophie Cadalen.
Faire rire l'autre.
Oui, je reprends ce terme, ce grossier terme de jouissance. Rire, c'est ça, c'est jouir de quelque chose, c'est avoir du plaisir, c'est le partager. Mais je crois aussi, pour rebondir sur cette phrase, il faut parler. Mais ce qui fait aussi souvent je dirais le terreau des couples qui s'entendent bien, c'est la capacité aussi à se taire ensemble, à apprécier le silence ensemble.
Ça, c'est la psychanalyste qui parle.
Mais sans qu'il y ait forcément d'ennui. On ne compense pas par le téléphone sur lequel on se précipite. On peut être en voiture ensemble, rêvasser. L'un conduit, l'autre regarde par la fenêtre. Et on est bien. C'est pas mal aussi.
Et on est bien en écoutant la voix de l'écrivaine Dominique de Santi.
Ce que la vie m'a appris, c'est que l'autre est vraiment un autre. Et que si vous ne respectez pas cette altérité, le rapport devient vite étouffant. Alors, au moment de la passion et dans certaines circonstances de l'amour, on croit en la fusion, on la désire, on a l'impression qu'elle s'accomplit, mais c'est impossible dans la durée, parce que on peut continuer à s'aimer tout autant, mais il y a des heures et des jours et des circonstances où l'autre reprend son altérité. Évidemment, il y a toujours une distance au-delà de laquelle l'autre est insaisissable, incompréhensible. Il y a une distance. Et si on ne la respecte pas, certes, il peut y avoir des passions amoureuses et des moments de fusion, mais le sentiment ne peut pas s'épanouir.
Quelle belle conclusion de Dominique de Santi, Sophie Cadalen.
Oui, je dirais que la relation, c'est peut-être une série de rencontres incessantes.
C'est difficile.
Non, mais il faut qu'on se parle. Et si on n'arrive pas à se parler, pourquoi ne pas aller consulter un thérapeute de couple qui va vous y aider?
Merci beaucoup Caroline Cruz, Robert Neuberger et Sophie Cadalen. Vous pouvez retrouver toutes les références bibliographiques sur l'appli et le site France Inter. Demain à 14h, comment le philosophe Descartes peut nous aider dans la vie ?